Monsieur Mba Libingo Ngakeu, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, c'est un nouveau projet qui a été approuvé pour 3 mois. Quelles sont les grandes lignes de ce nouveau projet?
Au fait, c'est le projet Prada qui continue, mais c'était juste des activités qu'il fallait essayer de réaménager pour les derniers 3 mois qui restent devant nous. On l'a fait pour combler les lacunes, les faiblesses qui ont été observées, parce que normalement le PTBA devait être validé depuis l'année dernière, ça n'a pas été le cas, donc il y a eu ces manquements-là que le maître d'ouvrage, qui est le ministère de l'Agriculture, a relevé, et donc nous nous sommes réunis aujourd'hui pour combler ces lacunes et tracer les axes pour les 3 prochains mois avant d'élaborer notre PTBA 2024.
Les grands axes, c'est quoi?
Les grands axes portent sur les activités qui restent à faire, parce que la plupart des activités ont été réalisées. Et là, suite à la restructuration du projet qui a été faite sur la demande du ministère de l'économie et du plan, qui assure le gouvernorat donc, de la Banque mondiale ici, il y a eu des réaffectations, des réallocations des lignes budgétaires par rapport à des activités. Par exemple, les activités qui étaient sur le N2, relatif à la subvention des MPME, c'est-à-dire les moyennes et petites entreprises. Une partie des subventions a été ramenée sur le 1-1, qui est la construction des ouvrages, ce qu'on appelle IPC, c'est-à-dire les infrastructures productives communautaires comme les aires de séchage, comme les entrepôts, les magasins, comme les marchés, comme les points d'eau, comme les pharmacies vétérinaires. Donc ça, c'est l'un des principaux axes qu'on aura pour l'année 2024. Mais il y a aussi l'affectation des fonds, le financement à coût partagé qu'on va donner aux associations, aux individus, aux coopératives agricoles, mais aussi aux groupements de femmes et des jeunes. Qui amène des projets qui sont susceptibles de déclencher le développement à la base.
Depuis presque 4 ans que le projet Pradak est mis en œuvre en République centrafricaine, et ce projet est exécuté dans au moins 6 grandes préfectures de la République centrafricaine, notamment la Vakaga, dans la Waka. Peut-on parler de l'impact de ces projets sur la population et les bénéficiaires?
Vous savez, en matière d'agriculture, les impacts ne se mesurent pas en termes de mois, en termes de 2 mois, en termes d'un an. Sauf si ce sont des petites activités à cycle court. Vous savez que l'insécurité alimentaire a gangréné le pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des efforts pour que on réduise au maximum cette insécurité alimentaire. Et c'est par ça que nous avons procédé à la distribution des intrants, de plus de ce sont 17 000 kg de semences qui ont été produites, dont 22 000 kg de maïs et 54 kg d'arachides. Nous avons aussi et réussi à construire plus de 71 IPC, dont je vous parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, on peut dire qu'en termes d'indicateurs, nous avons 363 000 personnes bénéficiaires directes qui ont été touchées par le projet. Si vous prenez en compte les zones que vous avez citées, ça veut dire que nous sommes en train de faire un travail quand même remarquable et dont les résultats et les impacts se font sentir de manière progressive dans les différentes localités là où nous intervenons. Nous sommes à 1 an de la fin du projet. C'est vrai que ça a été prorogé pour 1 an encore. Donc normalement, le projet devait s'achever en mai 2024, se prolonger jusqu'à mai 2025. Mais déjà, vous avez vu qu'il y a des indicateurs que nous avons donnés qui attestent. Il y a des pourcentages qui sont atteints, nous sommes allés au-delà. Il y a des aires de séchage, il y a des magasins de stockage, il y a des semences, des tonnes de semences qui sont distribuées. Donc, il y a 45 km de route qui a été réhabilitée entre Bossanga-Wambak, qui aujourd'hui arrive à désenclaver la zone de production vivrière qui était de l'autre côté où il n'y avait pas de route. Il y a 300 km que nous allons réhabiliter dans l'Ouham et dans l'Ouham-Pendé. C'est autant de réalisations qui, à mon avis, prouvent qu'il y aura des impacts et que vraiment nous sommes dans la bonne direction.
On parle de l'incohérence dans l'agencement des idées pour ce projet. On dénonce également la mauvaise gestion du fait du changement à chaque fois des experts ou encore des coordonnateurs. Est-ce que ce n'est pas une preuve de mauvaise gestion ou encore de mauvaise mise en œuvre de ce projet Pradak?
L'instabilité institutionnelle dont nous avons parlé tout à l'heure n'est pas liée forcément à une question de mauvaise gestion. Bon. Je ne reviens pas sur ce qui est passé. C'est vrai que le Pradak a démarré avec un coordonnateur qui, par la suite, a été relevé. Il y a eu 1 an d'intérim. Et après, bon, je suis arrivé, je suis à mon 8e mois. Je sais que, bon, l'œuvre humaine est perfectible, ceux qui sont passés avant moi. Je ne voudrais pas leur jeter l'anathème, mais je vois que je suis venu, j'ai pris les choses en main, on est en train d'avancer, c'est l'essentiel. Donc aujourd'hui, tout le combat que je mène, c'est que je voudrais quand même qu'il y ait de la performance dans les résultats que nous menons. Et surtout, je voudrais réduire le taux d'illégibilité des dépenses. C'est-à-dire que chaque centime qui est donné doit servir à ce à quoi ça a été donné. Donc l'argent que nous recevons, ce n'est pas pour nous. C'est vrai que nous avons des indemnités, nous avons des salaires, nous avons des moyens, assez de commodités pour faire bien le travail, mais nous devons être conscients que chacun là où il est doit faire quelque chose pour son pays. Donc en termes de mauvaise gestion, je crois que là, je me doute que vraiment, maintenant que nous sommes en train d'avancer, qu'on parle de mauvaise gestion.
Pour ce projet PRADAC, on se rend compte que d'autres organisations qui œuvrent dans l'agro-business sont également impliquées. Prenons par exemple le cas de l'ONG WHH, qui est un partenaire de la République centrafricaine en matière agro-pastorale, qui est aussi impliqué pour ce projet. Ne fallait-il pas travailler directement avec les coopératives locales dans ces localités où réalise le projet?
Très bien, nous allons vers ça. Nous allons vers ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons vu que ceux que nous avons recrutés comme WHH, comme IDC, comme d'autres prestataires, comme le PAM, comme la FAO, nous les appelons des partenaires d'exécution, mais qui sont en train de renforcer les capacités de nos structures de base, les organisations paysannes. Après, nous sommes aussi dans un processus de pérennisation pour que ces organisations paysannes puissent avoir les outils qu'il faut en termes de gestion financière, en termes d'itinéraire technique, en termes de reporting, qu'ils aient tous ces outils. Et puis après, les intermédiaires comme les WHH vont se retirer, mais au moins ils auront donné des outils pour permettre à ces organisations de base de pouvoir vraiment avoir les moyens techniques et financiers pour avancer. Donc aujourd'hui, on ne met pas de côté les organisations paysannes. Nous sommes dans un processus de renforcement graduel de capacités pour les aider vraiment à être à mesure de consommer tout le service que nous mettons à leur disposition.
Alors, M. Mba Libingo Ngakeu, Radio Ndekeluka vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.